DW. Pulsation. Quitter son pays pour vivre dans celui des autres, c'est le thème abordé par l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani dans son dernier roman qui doit être bientôt traduit en allemand. Beaucoup de gens de la diaspora se retrouvent dans l'histoire qu'elle raconte. En fin d'émission, coup de projecteur sous forme d'hommage à DJ Arafat, décédé accidentellement il y a tout juste un an. Mais tout d'abord, dans notre rubrique du mot du jour, nous parlons de la Journée mondiale de la jeunesse. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Ce mercredi, c'est comme chaque année, le 12 août, la Journée internationale de la jeunesse. Elle a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1999 pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes et célébrer leur potentiel en tant que partenaires dans la société. C'est ce dernier point qui est à l'honneur pour cette 21e édition, qui se déroule sur le thème de l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Il s'agit de mettre en évidence dans quelle mesure les contributions de la jeunesse au niveau local, national et global permettent d'enrichir les institutions et les processus internationaux. Par ailleurs, la réflexion autour de cette question vise à améliorer la représentation des jeunes dans la politique. L'ONU a fixé des objectifs concernant le développement durable. Or, il ne reste plus que 10 ans pour les atteindre. Et comme les institutions de gouvernance internationale souffrent d'un manque de confiance de la part de l'opinion publique, particulièrement face à la crise environnementale et sanitaire, l'engagement des jeunes dans les mécanismes de décision ne peuvent qu'apporter une amélioration de l'équilibre démocratique et des concepts pour des solutions plus durables. Outre la Journée mondiale de la jeunesse qui a donc lieu ce mercredi 12 août, sachez qu'une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux sous le hashtag 31 Days of Youth, en français 31 jours de jeunesse, pour célébrer les jeunes générations tout au long du mois d'août. Pause musicale à présent avec Jeunesse Willila du Sénégalais Abdoulaye Cissé.
Willila, jeunesse nous les Willila. 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 C'est balayé, jeunesse nous les Willila. On louait à qui les sorts, jamais n'a pu coller. A qui les taillardé. Otanna faso popolo la birita yade otanna faso dilada akilita yade.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. Nous parlons littérature à présent avec un phénomène de la scène francophone du livre. Leïla Slimani compte en effet parmi les auteurs les plus lus, notamment en France. L'écrivaine franco-marocaine, lauréate du prix Goncourt, se prononce depuis des années aussi sur des sujets sociopolitiques dans son pays d'origine. Par exemple, la sexualité et l'identité. Son dernier roman, paru cette année, marque le début d'une trilogie. La traduction allemande est attendue en début 2021 sous le titre « Das Land der Anderen ». Le pays des autres. Avec cet opus, Leïla Slimani touche du doigt le ressenti de nombreux Marocains et Marocaines. En Allemagne, vivent de nombreux citoyens originaires du Maroc depuis plusieurs générations. Des jeunes nés en République fédérale d'Allemagne, d'un ou deux parents marocains venus dans les années 1970 comme travailleurs immigrés. C'est un véritable déracinement qu'ils ont vécu et qui s'est amenuisé avec le temps. Quand est-ce qu'on finit par ne plus se sentir étranger dans le pays des autres ? Quand est-ce qu'on ne se sent plus à la maison dans son pays d'origine ? Est-ce que c'est à la mort des parents ? Quand la société a changé ? Lorsque l'envie de retourner au pays disparaît petit à petit parce qu'il n'y a plus grand-chose qui nous attend là-bas ? Tous ces thèmes abordés par Leïla Slimani préoccupent la plupart des personnes issues de la migration.
Et moi, c'est évidemment un sentiment que j'ai souvent ressenti, puisque ça m'est souvent arrivé au Maroc qu'on me dise que je suis trop française, que je suis trop occidentale, que je ne suis finalement pas une vraie Marocaine et que je ne représenterai pas mon pays. En France, ça m'est arrivé plein de fois qu'on me dise que je ne suis pas une vraie Française parce que je suis d'origine maghrébine. Donc, je comprends très bien ce sentiment parce que moi aussi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans le pays des autres.
Ce roman est donc très personnel, confie la jeune autrice. Il raconte une saga familiale qui s'étend sur 3 livres et plusieurs décennies à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au centre de l'histoire, il y a un jeune couple, Mathilde, l'Alsacienne de l'Est de la France, et Amine, un officier marocain qui a combattu pour l'armée française. Par amour, Mathilde quitte la France pour le Maroc, occupé à l'époque par les Français. On est à la fin des années 1950, plus de 10 ans avant l'indépendance du pays. Une période où les relations entre Français et Marocains se dégradent et bientôt des combats armés et des attentats à la bombe vont avoir lieu.
C'est quand même une époque où quand vous étiez Marocain, on vous parlait un Français, vous parlait dans la rue, vous appelez Mohamed et il vous tutoyait. Vous étiez une femme, vous étiez une Fatma et on vous tutoyait. Bon, il y avait des, on pourra toujours trouver, bien sûr, des gens qui étaient ouverts. Il y avait des échanges, il y avait parfois du respect. Ça, je ne le nie pas du tout, mais j'ai quand même voulu aller creuser les souffrances intimes.
Le récit dans le roman est inspiré de l'histoire des grands-parents de Leïla Slimani, surtout de sa grand-mère, une Française qui a vécu non seulement dans le pays des autres, mais aussi sous le poids de la société patriarcale, où une femme ne pouvait pas décider librement de ses faits et gestes.
Eh bien, ma grand-mère, disons que c'est la maman, quoi. C'est la matriarche de la famille. Elle était impressionnante physiquement, d'abord, c'était une femme très grande, forte, avec un regard vraiment acéré comme ça, et elle vous fixait. Et puis, c'était une femme quand même qui a eu un destin assez incroyable, très courageuse, qui se laissait pas du tout faire, ni par son mari, ni par personne d'ailleurs. Et puis, c'est une femme très, très attachée au Maroc, très attachée à ce pays, à cette terre. Elle parlait extrêmement bien l'arabe, elle parlait le berbère, avec un très fort accent alsacien. Elle aimait beaucoup les insultes en arabe et toutes les expressions un peu impolies. Et ça la faisait beaucoup rire, parce que quand elle les utilisait, les gens étaient très stupéfaits, parce qu'elle avait un physique, voilà, de grande blonde aux yeux verts, et elle utilisait vraiment des expressions de la rue. Donc c'était une femme, voilà, très drôle, très indépendante, qui racontait beaucoup d'histoires et qui nous a raconté beaucoup des histoires de son enfance, de son Alsace. Elle avait quand même gardé une nostalgie très forte aussi de son Alsace natale. Donc c'était une femme déracinée qui avait réussi à se reconstruire des racines au Maroc, mais qui n'avait jamais, jamais, jamais oublié non plus d'où elle venait. Et je crois que c'était une de ses grandes forces.
Le pays des autres, le dernier roman de Leïla Slimani, touche intimement plusieurs générations de Marocains, confirme l'historien et anthropologue Mustapha Kaderi.
Vivre dans le pays des autres en situation coloniale, c'est être dominant de la part de l'Européen qui s'installe chez le dominé, le colonisé. Vivre dans le pays des autres pour les immigrés en Europe d'une manière générale, c'est toute l'histoire des immigrés, des guest arbeiter, des travailleurs des mines, des usines, de la reconstruction des Trente Glorieuses, mais c'est aussi des gens sans famille, solitude. D'ailleurs, après les indépendances, on va assister à une immigration de part et d'autre, c'est-à-dire les ex-colonisés qui s'installent en Europe sont considérés comme des immigrés. Mais les Européens, quand ils s'installent en Afrique ex-colonisée après l'indépendance, sont considérés comme des coopérants, des gens qui coopèrent, qui aident au développement. C'est-à-dire, ce sont deux logiques différentes.
Pour l'écrivaine et journaliste marocaine Hanan Derkaoui, vivre dans le pays des autres signifie avant tout des attentes surdimensionnées envers ceux qui ont émigré. Les transferts d'argent des personnes de la diaspora vers leur pays d'origine représentent en effet pour beaucoup de pays une part importante du volume économique. Hanan Derkaoui vit en France depuis 18 ans et elle y a fondé une famille.
Oui, je comprends que vivre dans le pays des autres, c'est aussi des entrées de devises pour le Maroc et c'est dommage parce que les RME sont vus surtout comme source de devises, voilà, il n'y a pas d'intérêt pour leur vécu. Aller au consulat du Maroc en France, par exemple à Toulouse où je vais à côté, c'est vraiment une immersion dans les pratiques de l'administration marocaine ou bled. Mais bon, ça permet aussi d'oublier la nostalgie. Moi, quand le Maroc me manque, je vais une heure au consulat et je suis vraiment rafraîchie. La mémoire est rafraîchie, on retrouve la bureaucratie, on retrouve l'austérité, on retrouve le non-respect du citoyen, on retrouve le Maroc, quoi, à Toulouse. Notre consulat, ça nous permet d'oublier un peu, d'alléger la nostalgie.
Aujourd'hui encore, de nombreux Marocains et Marocaines et leurs descendants vivent, étudient et travaillent dans toute l'Europe. Certains d'entre eux rêvent d'une vie meilleure dans le pays des autres. Peu importe qu'on soit française au Maroc ou marocaine en France, selon la conclusion de Leïla Slimani, celle ou celui qui vit dans le pays des autres doit un peu lâcher prise et ancrer de nouvelles racines dans le sol sur lequel il vit, même si lorsqu'elles poussent, cela peut parfois faire mal. Merci à Dounia Sadaki qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
J'aime les grosses voitures parce que, étant petit, mon père me mettait tout le temps dans des voitures sportives et tout, et il accélérait et tout. Donc ça m'a plu. J'ai toujours aimé la vitesse. C'est de là que vient cet amour envers les jouets de puissance. J'ai pas eu peur de naître. Pourquoi je dois avoir peur de mourir ?
Je n'ai pas eu peur de naître, pourquoi aurais-je peur de mourir ? Une des dernières interviews de DJ Arafat, en l'occurrence pour la chaîne DBM, Digital Black Music. C'est peut-être l'amour de la vitesse dont il parle, qui lui a valu de nous quitter à l'âge de 33 ans. Il y aura un an demain, Ange Didier Houon est mort dans un accident de la route, au volant de sa moto à Abidjan. DJ Arafat est un artiste ivoirien, multitalent, chanteur, compositeur, parolier, danseur, chorégraphe, producteur et arrangeur. À l'apogée de sa carrière, il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et roi du coupé décalé, le mouvement de musique urbaine développé avant lui par Doug Saga. En 2015, il est nommé artiste africain le plus influent à l'international par Forbes Afrique et Trace Africa. C'est la chanson « Hommage à Jonathan » en 2003 qui avait révélé le jeune DJ Arafat au grand public. On écoute un remix de cette chanson pour se quitter. On entend évidemment DJ Arafat, mais aussi en featuring Maître Gims. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci d'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programme sur la DW et à très bientôt. Salut!
Demande